sur Jeune Critique, la classe de seconde du lycée agricole de la Canourgue.
Je vous présente une critique de théâtre.
Bonjour, vous êtes sur 48 FM, nous sommes la classe de seconde du lycée Louis Pasteur à la Canourgue et nous allons vous présenter Jeune Critique sur Aquamonde. C'est notre émission qui parle de théâtre. Nous sommes en compagnie de
Nathan,
Mathis,
Emmanuel,
Mathis,
Ludovic,
Enzo,
Matteo
et moi-même Eddy. On est allé voir trois pièces de théâtre qui se nomment Lettres jamais écrites, Maintenant que je sais et La dévorée. À chaque sortie théâtrale, nous avons fait des micro-trottoirs pour savoir pourquoi les gens venaient, comment ils avaient ressenti le spectacle et s'ils s'étaient identifiés au personnage. Nous allons aujourd'hui vous parler de ces trois spectacles en direct sur 48 FM avec des débats et des lectures.
C'était un mardi, le 27 novembre. Il était à peu près 19h. Nous nous sommes regroupés devant le lycée pour expliquer ce qu'il doit se passer. Nous étions 7 élèves de seconde, un élève de BTS deuxième année, notre professeur et une intervenante venue tout droit de Paris, rien que pour nous et le projet. À 19h10 environ, nous sommes partis du lycée pour rejoindre le hall. Il y avait une vingtaine de personnes présentes et également deux filles qui étaient déjà venues lors de la première représentation de la pièce qui se déroulait en début d'après-midi. L'intervenante nous a lu un livre et quelques élèves de la classe aussi. On nous a répété les consignes pour ne pas déranger le spectacle, ne pas parler, éteindre le téléphone, ne pas faire de bruit, etc. Le spectacle a commencé à 20h30. C'était un spectacle particulier. Le public était autour comédien, contrairement à d'habitude. Par terre, il y avait un sol caoutchouteux et quelques éléments de décor. Bureaux, chaises, couettes, oreillers, tables, photos et quelques autres petits détails. Pendant la représentation, on était vraiment proche des comédiens, on vivait la scène. Le titre de ce spectacle était « Les lettres jamais écrites ». Il a été mis en scène par Estelle Savasta. Certaines de ces lettres étaient vraiment tristes, d'autres vraiment comiques. On pouvait se retrouver dans certaines d'entre elles. Pour ma part, ça a été la lettre à mon grand-père et mon futur moi. Quand le spectacle a pris fin, nous avons eu un entretien avec les comédiens et l'organisatrice de ce spectacle. Ils ont répété cette pièce pendant près de 3 semaines, et à chaque fois qu'ils la faisaient, ils l'amélioraient avec des petits détails. Lumière, place des comédiens, objets, phrases, tout y passait. Nous avons continué et on a parlé de notre filière scolaire, mais c'est plus Azad, le BTS, qui a su répondre à toutes les questions. Ensuite, nous sommes allés dans la salle d'à côté. Il y avait des gâteaux et à boire. Nous avons aussi interviewé des personnes qui étaient présentes lors du spectacle.
Je m'appelle Sandy, j'ai 15 ans, j'habite à la Canourgue.
Je m'appelle Sonia, j'ai 15 ans et j'habite aussi à la Canourgue.
Dans quel cadre êtes-vous venu, projet scolaire ou quoi?
Oui, projet scolaire.
Et du coup, le soir même, c'est pas un projet scolaire, c'est pour vous que vous êtes venu?
Oui, c'était personnellement, oui.
Pour la curiosité.
Vous êtes venu deux fois à ce spectacle, pourquoi?
J'étais très intriguée par les lettres que nous n'avons pas découvertes cet après-midi. Du coup, je voulais vraiment les découvrir cette soirée.
Quelle différence vous avez remarqué entre cet après-midi et ce soir?
Au début, ils font intervenir le public pour choisir des lettres. Et c'est au public de choisir. Et à chaque représentation, c'est vraiment pas les mêmes lettres qui sont piochées. Les paroles n'étaient vraiment pas pareilles, enfin, dans certains contextes. Et les gestes aussi.
Oui, changer un peu de façon de faire et de dire aussi.
Avez-vous choisi une lettre du coup pour cette soirée et cet après-midi?
Moi, c'était cet après-midi, j'ai choisi au père.
J'ai choisi à mon fils.
Donc vous imaginez dans ces lettres-là?
Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu mon père parce qu'elle a été offerte à la femme.
Aimeriez-vous écrire du coup une de ces lettres?
Oui, pourquoi pas, oui.
Et du coup, sur quel sujet?
Ce qui m'est arrivé étant petite, je pense.
Nous allons maintenant vous lire certaines de ces lettres écrites par des élèves de Cavaillon.
Tu me demandes d'écrire une lettre jamais écrite. Je vais te dire, parler de soi est une chose trop difficile pour moi. C'est plus fort que moi, je me braque et je deviens désagréable. C'est toujours comme ça et ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas expliquer l'état dans lequel je me mets. J'ai envie de pleurer, de m'énerver, de crier. Je vois tout en noir et je me tends. J'ai envie de tout envoyer balader. Quand je commence à me calmer, je regarde autour de moi. Tout le monde écrit. Ça paraît si simple pour eux. Oui, je suis jalouse. Je suis partagée entre l'envie de faire les choses bien et le refus complet d'écrire. Tu comprends? Rien que tenir un stylo devient difficile. Tu vois, quand je suis comme ça, je ne pense plus correctement. Tout s'embrouille. Je n'ai plus que du vide dans ma tête. Toi, tu ne comprends même pas mon état et tu crois que je le fais exprès. J'ai cherché pourquoi je fais ça.
mais n'ai pas envie qu'on connaisse ma vie, parce que j'ai l'impression qu'on va me la voler. J'ai peur qu'on me la critique, qu'on se moque aussi. Et puis je ne comprends pas l'intérêt de raconter sa vie. Je veux dire, qui ça intéresserait? J'ai envie de tout garder secret. Dans ces moments-là, je me sens faible, comme une petite fille. Je me dis qu'écrire revient à retirer son armure en pleine guerre. J'ai l'impression de ne plus être protégé des autres. D'être comme un lapin pendant la chasse, une proie. Je ne sais pas pourquoi j'ai réussi à écrire, mais il n'empêche que j'ai du mal à me dire que je vais te donner cette lettre comme une partie de moi.
Chère Justine, il fait presque noir. Je suis sur mon lit, j'ai 16 ans et je pense à toi. La jeune fille timide que j'ai été à 14 ans. Je pense à ta peur de l'inconnu, à ton côté rêveur, à tes rapports assez étroits avec tes parents. Tu contestes sans arrêt leurs règles. Tu penses qu'ils agissent dans le seul but de t'embêter. Mais ils ne le font pas exprès. Tu sais, il faut les pardonner. Ils apprennent à être parents comme toi tu apprends à devenir adulte. Laisse-leur du temps. Ton adolescence paraît si singulière. Tu es dans ta bulle, tu t'enfermes et tu ne fais plus rien de tes journées. Tu restes dans ton lit, à regarder par la fenêtre. Tu ne sais plus vers qui te tourner. Tes amis s'amusent, voyagent. Ils ont l'air si heureux et toi tu es la seule habitante de ton monde. Tu somnoles, dans l'espoir que tout va s'améliorer. Tu te sens seule et incomprise. Tu t'aigris. Si je pouvais te parler, je te dirais de ne pas t'inquiéter. Tout un temps. Cette tristesse finira par s'évaporer. Ne sois pas trop injuste avec toi-même. Tout finira par s'arranger, je te le promets. Je suis toi à 16 ans, alors je le sais.
Pourquoi j'ai en permanence cette impression d'échec? Pourquoi quand tout semble s'illuminer, je retombe plus bas encore? Pourquoi j'ai l'impression que la vie n'a aucun sens? Pourquoi j'ai l'impression que notre vie est dictée à la seconde? Pourquoi nous demande-t-on de faire en une vie ce qui nous en demanderait plusieurs? Pourquoi j'ai ce creux dans mon ventre? Pourquoi je me dis que je ne tiendrai pas 60 ans dans ce monde? Pourquoi faut-il grandir? Pourquoi ne puis-je pas redevenir petit? Pourquoi vivre sous les ordres et les obligations des autres? Pourquoi continuer?
Pourquoi? À tue-tête, hurler, murmurer, marteler, lancer comme envoyer valser, à la face de l'univers. Une colère, un appel, des bouteilles à la mer, question intime, existentielle, essentielle. Uppercut, aller-retour, un tir groupé qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Enfin j'espère, douce pourquoi, tombé dans ma boîte mail un jour de septembre, le 26 exactement, 26-09-2016. Date d'envoi et de réception, 14h56. Ting, vous avez un message. Douce pourquoi, adressé à qui veut bien le recevoir.
Aujourd'hui il fait beau, soleil sans nuages, la météo ne prévoit aucune précipitation. Il fait beau, et pourtant moi, je suis enfermé dans une chambre, sans aucune envie de sortir. Aujourd'hui il fait beau et je pense à toi, à moi, au futur papa que je serai. Si je serai ton père, sache que je ferai sûrement beaucoup de conneries. Que j'improviserai pour t'éduquer, que je te laisserai sortir jour et nuit. Si je serai ton père, je me battrai pour toi. Je rigolerai avec toi, personne ne te touchera. Si je serai ton père, j'agirai pas comme mon père. J'essaierai de faire mieux, de te rendre heureux, de tout faire pour que tu aimes la vie. Je te raconterai ma vie souvent, celle d'un enfant qui fut il y a 13 ans. Je te dirai travail à l'école, même si au fond de moi-même je m'en foutrais. Si je serais ton père, je t'apprendrai à jouer au foot, à faire de la moto et de la boxe. Je t'apprendrai à être heureux, à voir toujours le positif même quand il n'y en a pas. Je t'apprendrai à reconnaître les gens. Certains te voudront du mal. Si je serais ton père, je t'aimerais de tout mon cœur. Je mettrais des photos de toi dans ma voiture, mon bureau, ma chambre. Je serais ces pères idiots que j'ai jamais aimés. Tu sais, ceux qui aiment leur fils comme un frère. Je t'aimerais encore plus qu'un frère. Par contre, je te préviens tout de suite, tu ne seras pas un enfant pour y gâter. Tu vivras avec ce que tu as, mais tu seras quand même heureux. Crois-moi, tout ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui j'écris ce texte et il fait beau. Aucune précipitation d'après la météo. Un soleil sans nuages. Il fait beau et je pense à toi.
Cher papy Hello, je t'écris cette lettre pour te dire à quel point tu me manques. Maintenant, je vais te voir au cimetière et je suis blessé de ne pouvoir te voir que sur une pierre tombale. J'aimerais tellement t'embrasser et sentir la chaleur de ton corps. Tout me manque. Quand tu me donnais des cigarettes rien que pour m'embêter. Quand tu les fumais et que je te disais « Papy, arrête de fumer ». Quand tu me gavais de pain au chocolat, tu m'as souvent demandé si je voulais dormir chez toi, et j'ai refusé parce que j'avais peur d'être trop loin de mes parents. Je regrette. Je ne vais plus au parc Borély, parce que c'est plus pareil sans toi. Je ne donne plus à manger aux canards. Je pense à toi dès qu'on parle de Dalida, à la maison. Maman, que c'était ta chérie, et qu'il ne fallait pas se moquer d'elle. Si on écoute Claude François, maman me raconte que tu faisais Claude-Claude, et que maman et ses sœurs dansaient comme les Claudettes. Je pense à toi quand on mange des raviolis au fromage. C'était ce que tu nous cuisinais presque tout le temps. Tu avais un petit studio dont tu n'étais apparemment pas fier, mais j'aurais aimé l'avoir vu au moins une fois. Pendant longtemps, j'ai cru que tu vivais là où tu nous accueillais. J'ai su bien plus tard que tu nous recevais dans l'appartement de ta nièce, parce qu'il était beaucoup plus grand. Si tu pouvais revenir pendant 24 heures, je profiterais de chaque minute. Même si j'ai école le lendemain, je resterai éveillé jusqu'au bout, jusqu'à 5 heures du matin. Je te dirai tout ce que tu as manqué en 7 ans. Je fais du théâtre et du cinéma. Toi, tu étais cinéphile. Tu serais fier de moi car j'ai rencontré des acteurs et des réalisateurs. J'ai eu mon brevet avec mention bien. Je suis passé en seconde, je n'ai pas redoublé de classe. J'étudie l'italien car je voulais parler comme toi, la langue de la famille. Je le fais en ton honneur. J'ai plein de questions. J'aurais voulu que tu me parles de Tunis, ta ville natale et de mes ancêtres. Après ton décès, nous avons hérité de Rocky, ton chien. On peut dire qu'il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Il t'a rejoint pendant mon épreuve de brevet de mathématiques. J'ai été triste, très triste. Même si je sais qu'il est bien maintenant avec toi. Je vis ma vie pleinement, mais s'il y a une vie après la mort, j'ai hâte de mourir afin de vous revoir, toi et Rocky. Je suis tellement triste que je ne sais plus quoi te dire. Quand j'écris « Tu me manques », tu ne peux pas savoir à quel point. Aujourd'hui, tu as 82 ans, tu ne serais peut-être pas comme tu nous as quittés, peu importe. Pour moi, tu es et tu resteras à jamais mon grand-père, mon papy Hello, Colin.
Una mattina, sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il maso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao.
Maintenant que je sais, invite une comédienne à entrer dans la vie des lycéens, dans leurs murs, pour s'asseoir avec eux à la table et ouvrir le débat à travers son histoire. Cette forme propose donc du théâtre, un lieu non théâtral, une salle de classe. L'enjeu de ce dispositif qu'on peut appeler in situ est de plonger dans le quotidien d'un espace par une mise en forme qui sort l'interprète et le public des sentiers battus. La comédienne s'inscrit dans l'expérience intime des gens. Il s'agit de faire confiance à la part d'imagination du spectateur. La comédienne, étant seule en scène, offre un échange particulier avec le public. Elle nous parle directement, nous implique, nous prend à partie. Le temps d'un regard, chaque spectateur devient un personnage du récit et entre dans la fiction. Cet échange passe par une proximité physique et un engagement corporel qui inclut le spectateur. L'actrice incarne alors plusieurs personnages. Jamais la comédienne ne s'adresse au spectateur comme à une masse indistincte. Ainsi, chacun fait partie de l'histoire d'Hélène. Chacun la vit, au lieu de simplement la recevoir.
1983, Hélène, journaliste française correspondante au Brésil, nous raconte l'histoire de son amie Magdalena. Farouche opposante au régime militaire en place, Magda lutte pour diffuser ses idées de liberté avec son amoureux. Lui, il prenne de plus en plus de risques. Hélène, face aux menaces grandissantes qui pèsent sur ses deux amis, face au détournement de la vérité, entreprend un combat pour la liberté d'expression, aux dépens de sa propre sécurité.
Bah, comme j'ai dit, j'ai adoré. Et en fait, c'est grâce au jeu de la comédienne, je pense. Elle jouait très bien ses rôles. Bah, la comédienne, elle était toute seule. Et du coup, bah, en fait, comment elle racontait l'histoire, on était vraiment dans l'histoire, vu qu'on était... pour moi, j'étais dans la scène. Elle interagissait avec nous, elle nous regardait dans les yeux et tout ça, et en fait on imaginait qu'on était le personnage quand elle nous regardait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti.
Est-ce que vous étiez dans un théâtre?
Non, on était dans une salle de classe. Il avait aménagé en salle, du coup, pour en scène.
Et où? Donc, à quel
dans le lycée.
Parce que ça, c'est assez incroyable d'amener le théâtre au lycée, non? Vous trouvez pas?
Oui, ou c'est peut-être pour trouver un endroit pour jouer. Je sais pas.
Tu penses qu'il cherche des endroits et donc il se dit, tiens, on va aller jouer dans un lycée?
Oui, je pense.
Est-ce que, là, vous n'étiez pas dans un théâtre, mais est-ce que vous avez quand même eu l'impression d'aller au théâtre?
Ouais, pour moi, ouais. Enfin, c'était comme un théâtre.
Et pourquoi alors? Parce qu'un théâtre, normalement, il y a des chaises, c'est beau, enfin, des sièges, des fauteuils rouges, un rideau, une scène un peu loin, on voit les acteurs en costume. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir que t'étais quand même au théâtre alors que vous étiez dans une salle de lycée?
Je sais pas, bah, pour moi c'est encore le jeu de la comédienne. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est ça, ouais.
Tu avais l'impression qu'elle s'adressait à toi?
Ouais.
Et comment tu as eu cette impression qu'elle s'adressait à toi alors qu'elle te parle d'une histoire qui s'est passée il y a longtemps et qui s'est passée loin au Brésil? C'est étrange ça.
Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, elle nous regardait dans les yeux, du coup, juste avant de nous regarder dans les yeux, elle parlait d'un personnage, et du coup, je sais pas si je suis le seul, mais je m'identifie comme le personnage, et je rentrais encore plus dans l'histoire.
Le spectacle m'a plu, du coup, j'aimerais bien qu'on monte un projet avec la classe, voilà.
Un projet qui développerait quoi?
Ouais, je sais pas, faire une enquête ou quelque chose comme ça.
Par rapport au Brésil, oui, et à la dictature?
Oui, ou un autre pays.
Mais quand tu dis ça t'a donné envie de t'impliquer dans la cause, là c'est encore plus fort que seulement connaître ce qui s'est passé. S'impliquer, ça veut dire vraiment...
Oui.
S'engager, se battre pour... Alors du coup, tu as envie de t'impliquer, pourquoi? Tu pourrais nous expliquer un petit peu?
Parce que c'est quelque chose qui touche à la liberté, qui touche aux droits des hommes, tout ça, donc c'est important quand même.
De quelle liberté il s'agit?
La liberté de s'exprimer, la liberté de penser, la liberté de tout ce qu'on a mais qu'ils n'ont pas.
En quel sens ça vous a touché ce spectacle? C'est-à-dire, ça, est-ce que ça vous a révolté? Regarde, là, t'es face à un micro, tu peux dire ce que t'as envie. Est-ce que tu penses qu'au Brésil, ils pouvaient à ce moment-là dire ce qu'il voulait.
Ben non.
Non, pourquoi?
Parce que soit il se faisait tuer ou torturer.
Et ça t'a choqué, cette histoire?
Bah oui.
Pourquoi?
Parce qu'ils ont pas... Ils ont pas la liberté qu'ils veulent. Ils sont un peu esclaves. Nous, on peut dire non, tandis que s'ils disent non, ben, ils meurent derrière.
Du coup, vous étiez au spectacle avec des personnes du CADA. Mais c'est quoi le CADA?
En gros, c'est un endroit où on peut venir quand on veut demander le droit d'asile, c'est-à-dire le droit d'habiter dans le pays.
Est-ce que tu penses qu'ils ont compris tout le spectacle?
Non.
Et pourquoi?
Parce qu'il y en avait un qui comprenait pas du tout le français.
Je sais qu'ils étaient très émus. Est-ce que vous pensez qu'on peut être ému quand on voit un spectacle, même si on ne comprend pas le texte?
Quand il est bien joué.
Et même si on ne parle pas français ou il ne comprenait pas, je pense qu'on peut comprendre les gestes.
On peut comprendre les gestes. On peut comprendre... Qu'est-ce qu'on peut comprendre encore si on ne comprend pas la langue?
L'émotion, le regard.
L'émotion, très bien.
La musique.
Le regard. La musique, ouais.
Et la lumière.
Les sons, la lumière. Donc tu peux avoir quand même des sensations quand tu vois un spectacle, même si tu ne comprends pas le texte. Alors c'est marrant parce que le théâtre au début, le théâtre, la définition classique, c'est un peu Molière. Voilà, à l'époque, ils n'avaient pas trop de moyens pour faire des belles lumières, des beaux décors. Donc tout reposait beaucoup sur le texte. Dans les textes classiques, c'est le texte. Le théâtre aujourd'hui, c'est complètement différent. On peut en faire ailleurs que dans une salle de théâtre, dans un lycée. C'est incroyable. Et en plus, on peut ressentir quand même une émotion ou comprendre quelque chose alors qu'on ne comprend pas la langue dans laquelle est écrit le texte. Ça, c'est incroyable quand même.
Ben, on comprend que le public à qui elle parle, c'est comme le personnage.
Et du coup, ça t'a donné, toi, envie de t'engager, puisqu'elle t'implique dans son histoire.
C'est ça.
C'est pour ça que ce théâtre, il n'est pas dans un théâtre avec... sur un plateau éloigné d'un public. C'est qu'il est là, au milieu, c'est la vie, en fait, le théâtre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le théâtre permet de nous faire prendre conscience des choses de la vie?
Mais oui, bien sûr. C'est sûr, oui.
Nous allons maintenant entendre un extrait du texte de Catherine Verlaguer, « Maintenant que je sais ».
Vous aimez les États-Unis, mademoiselle?
Quel rapport?
Votre frère y vit, non?
Il travaille là-bas, oui.
Il a fait une demande de carte verte.
Vous voulez en venir où?
Nous sommes très amis avec les États-Unis.
Je sais.
Nos amis sont leurs amis, et nos ennemis.
Attendez, mon frère n'a rien à voir là-dedans.
Un policier a été tué lors d'un hold-up, il y a 3 semaines. Nous pensons que Magdalena faisait partie des guerrieros.
Je ne suis pas au courant, je ne suis pas avec elle 24 heures sur 24.
Vous avez baissé les yeux.
Je n'ai pas baissé les yeux, je suis fatigué.
Vous mentez, vous avez baissé les yeux. Comment peut-on avoir confiance en vous si vous ne vous souvenez même pas d'avoir baissé les yeux, alors que vous venez de les baisser?
J'ai baissé les yeux, oui, peut-être, parce que je suis fatigué. J'ai répondu à toutes vos questions plusieurs fois, vous savez tout, et je suis fatigué.
Pourquoi est-ce que vous vous énervez?
Je ne m'énerve pas.
Votre ton est énervé.
Je suis fatigué.
Vous êtes fatigué ou énervé? Vous ne répondez plus?
Je vous ai déjà tout dit.
Nous avons encore quelques questions.
Je ne parlerai plus qu'en présence de mon avocat.
Maintenant que je sais, c'est un spectacle de la compagnie Théâtre de Phare, mis en scène par Olivier Letellier, sur un texte de Catherine Verlaguer, et c'est joué par une comédienne qui s'appelle Jeanne Fabre.
Bonjour à vous, donc nous sommes un groupe du lycée Louis Pasteur Lacano, et nous aimerions vous poser des questions, accepterez-vous d'y répondre?
Comment avez-vous vu qu'il y avait un spectacle?
Par les relations que j'ai avec les responsables des Fadarelles.
C'est qui les Fadarelles?
Alors les Fadarelles, c'est une association locale donc, qui existe depuis une dizaine, quinzaine d'années pour le développement de la culture dans la région. Voilà. À travers des spectacles les plus divers, théâtre, musique et autres.
La presse, internet, les affiches.
Par le CADA.
Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ce monsieur est en demande d'asile en France. Ça veut dire qu'il est venu en France pour avoir une protection. Parce qu'il n'est pas en sécurité dans son pays.
Bah, de quel pays venez-vous?
Je suis iranien.
Connaissez-vous l'histoire?
C'est l'histoire d'une journaliste donc, qui a été poursuivie pour ses idées et qui a défendu la liberté de presse ailleurs qu'au Brésil. Voilà.
C'est quoi que vous intéresse dans le théâtre?
Ce qui m'intéresse, c'est la vie. Comment dire, l'expression de la vie à travers à travers les acteurs.
Cette pièce-là, parce que je connais le metteur en scène Olivier Letellier et que j'ai vu un excellent spectacle de lui qui s'appelait Oh Boy. Je suis venue, voilà, à cause du metteur en scène.
Oui, depuis longtemps, quand je suis était très très jeune, je suis arrivé au théâtre en Iran. Je pense que c'était une tradition dans notre famille en Iran. C'est pour ça. Mais après, il y a beaucoup de raisons. Parce que je pense, mon avis, le théâtre, c'est pas juste un art, c'est une vie. On peut regarder ou trouver toute la vie en théâtre. C'est une praxis. Oui, pratique, ça veut dire la vie, théâtre et la vie.
Et on vous souhaite un excellent spectacle.
Merci. D'abord, est-ce que vous avez aimé le spectacle ?
Oui, 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 beaucoup.
Cet spectacle, je suis assez impressionné. Ça m'a touché beaucoup. Et elle a dit beaucoup de choses dans mon pays, j'ai vécu réellement. C'est très très bon. Le sujet très efficace, très important. Et je pense que l'art généralement et le théâtre particulièrement, il peut montrer notre problème aujourd'hui.
Vous avez aimé quoi particulièrement dans quel passage?
L'ensemble, la disposition scénique, la disposition du public par rapport à la comédienne et le fait qu'elle regarde les gens en face, et le jeu de la comédienne. Et...
Est-ce que vous avez le moins aimé, c'était quoi ?
Qu'il n'y ait personne de Langogne, qu'il n'y ait pas assez de public, qu'il n'y ait pas assez de monde.
Quel a été le moment que vous avez le plus apprécié ?
La journaliste, elle a été demandée par un monsieur. Normalement, c'était très très intéressant. Le monsieur, mon avis, il a tourtoué cette femme, cette journaliste. J'ai vu en Iran, dans mon pays, cette réalité. Oui, c'est très très important.
Avez-vous aimé le jeu de la comédienne?
Oui, oui, c'est pas facile de faire un seul en scène pendant une heure et tout ça, donc c'est à la fois une performance et c'est pas un sujet évident à traiter, même avec les spectateurs comme ça, surtout avec le dispositif qu'ils ont fait. Donc ça... Non, c'est une sacrée performance. Hein.
Il utilisait tout son corps pour montrer, pour s'expliquer toute sa pensée. Et, il jouait très, très réel. C'est pour ça, je pense, ça m'a touché beaucoup.
Que pensez-vous du décor d'être autour de la scène et...
C'est un dispositif original, c'est un dispositif... Ça change des rapports qu'on a avec un spectacle où on a uniquement quelqu'un de comptable, on a quelqu'un qui évolue également avec le public, avec un espace qui est partagé avec le public. Voilà. Ça, c'est une constante dans les spectacles des Fadar, d'ailleurs c'est assez souvent le cas dans pas mal de spectacles qui proposent des dispositifs un peu particuliers.
Ouais, merci.
Et voilà, c'est bon. Merci.
Nous allons entendre l'interview de Jeanne Favre, comédienne du spectacle Maintenant que je sais, mis en scène par le théâtre du Phare, Olivier Letellier.
Depuis combien de temps êtes-vous comédienne ?
Je dirais que je suis comédienne depuis 8-9 ans.
Pourquoi avez-vous choisi le théâtre ?
Parce que je trouve que la parole est importante aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et que c'est un moyen très fort de pouvoir dénoncer certaines choses.
Pourquoi avez-vous choisi de jouer cette histoire ?
Parce que c'est une pièce qu'on a créée pour des lycéens, puisqu'en fait c'est un spectacle qu'on joue essentiellement dans les classes de lycée, et c'est sur le thème de l'engagement. Et donc on avait envie de parler avec les lycéens de l'engagement politique, parce que ça nous semble intéressant et important.
Ça a été dur de jouer autant de personnages à la fois ?
Non. En fait, au début, en répétition, ouais, c'était dur. Il a fallu qu'on travaille, qu'on cherche, etc. Mais maintenant, c'est un grand plaisir.
À quoi pensez-vous lorsque vous êtes sur scène ?
Je pense à ce que je dis et je pense surtout à raconter l'histoire aux gens.
Pour vous, qu'est-ce qu'un bon public ?
C'est un public qui va m'accompagner et m'aider à aller encore plus loin dans l'émotion, dans l'histoire. Un bon public, c'est quelqu'un qui, que je sens qui m'écoute et du coup, j'ai l'impression qu'il me donne encore plus d'aile pour aller encore plus loin dans l'histoire.
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois. Je suis monté à Paris, retrouver ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacer les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. Paraît qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Bien sûr, le bruit des wagons bondés me rend insomniaque. Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac. Le train s'arrête et redémarre, me tend des haut-le-coeurs. On a fait en 2 jours ce qu'on faisait en 6 heures. Je dois rejoindre la famille au port de Marseille, mais j'ai pris du retard. Je crois bien qu'ils vont partir sans moi. Quel cauchemar! Pas grave, je les rejoindrai en barque. Pas de réseau, impossible de choper une barre. Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule. Elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait bientôt 6 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille, un tas de tout dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas des hôpitaux. Sur le port on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. De Marseille avec la petite fille dans mes bras, presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi. Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure, plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul. Il me dit choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste et nous voilà partis. Acteurs d'une drôle de fable, à la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir retrécit. Et ça tangue et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête. En une seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Nos zappes et la laine sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis.
On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli. Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras. Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule. Sur sa pancarte, il est écrit « Rentrez chez vous ».
On vient d'écouter Big Flo et Oli, La vie de rêve. Alors merci à tous d'être avec nous ce matin. Je prends la parole maintenant. En fait, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le projet que vous avez mené avec Sylvaine Couder. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer aux auditeurs là ce qu'on vient d'entendre, puisqu'on n'a pas vraiment, on a laissé défiler les sons. Vous avez fait des lectures. Peut-être est-ce qu'il y a un de vous qui pourrait expliquer ce que vous avez fait dans ce projet?
Bah, on est allé voir 3 spectacles.
Alors, est-ce que tu peux rappeler le titre des spectacles? Allez, de mémoire, essaye de mémoire, on va t'aider.
Lettre jamais écrite, maintenant que je sais, et la dévorer.
Très bien. Lettre jamais écrite, c'est de qui?
Je crois que c'est Estelle Savasta.
Très bien. Maintenant que je sais, c'est de qui?
Olivier Letellier.
Et le dernier, la dévorer, c'est quelle compagnie?
Rasposo.
Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans ce projet? Vous avez vu 3 spectacles, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi vous faites de la radio, en fait? Pourquoi vous êtes là ce matin?
Bah, pendant les 3 spectacles, on a fait des micro-trottoirs.
Pendant?
Non, au début et après.
D'accord.
Voilà.
Et c'est quoi un micro-trottoir?
C'est on interroge les gens sur le trottoir.
Sur le trottoir, carrément. Alors, est-ce que ça vous a plu de faire ces micro-trottoirs? Allez, aidez-le un peu, là.
Ouais, grave.
Il n'y a pas que Eddy, bah, quand même, dans le projet.
On a appris plein de choses, je pense. Et c'était intéressant de parler à des gens qui venaient voir... des spectacles. On a pu croiser pas mal de monde qui était pas français. Et du coup, c'était sympa, ouais.
Il y avait des gens pas français qui sont venus voir les spectacles.
Il y avait un Anglais, un Iranien, il y avait un Libanais, je crois. Et bon, après, je me souviens plus.
On l'a entendu tout à l'heure, c'était des personnes du CADA. Donc, et ils ont compris, parce que c'était un spectacle avec du texte, le texte de Catherine Verlaguer, que vous avez lu tout à l'heure. Ils ont compris.
Bah, on leur avait posé la question et ils nous avaient répondu que oui, et surtout que c'était les gestes et le rôle de la comédienne qui les avait aidés à comprendre un peu l'histoire.
Mais... on sent bien qu'ils ont compris dans l'interview, effectivement, vous avez réussi à recueillir cette parole qui est très belle de ce monsieur qui vient d'Iran.
Ouais.
Ça vous a plu de faire ces micro-trottoirs?
Ouais, c'était intéressant.
C'est pas intimidant, du coup, d'interroger des gens que vous connaissez pas?
Un petit peu.
Un petit peu, Nathan?
Un petit peu, beaucoup.
Ouais. Ouais. Comment vous prépariez les questions?
Ben, on avait juste avant en cours, on a étudié un texte sur l'histoire qu'on allait voir. Et avec ça, on a créé en classe des questions qu'on pouvait poser à tout type de personnes. Et une fois, on les marquait sur une feuille. Et une fois au spectacle, on les posait avant et après.
Oui, c'est un travail pas évident, en fait. Je me souviens de vous, après le spectacle de Rasposo, dont on va parler tout de suite. Vous étiez un petit peu intimidé d'interroger surtout des lycéens et des lycéennes du lycée Chaptal. Est-ce que, par rapport au spectacle, donc le dernier spectacle qu'on a vu, moi, je ne vous ai pas revu depuis. J'aimerais avoir là vos sentiments, vos émotions, pas à chaud, parce qu'il y a eu un mois entre-temps, mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle, La Dévorée, qui était programmé... Alors, il était programmé où?
Il a été programmé dans un chapiteau de cirque. Et, je ne sais plus c'est quoi la ville, c'était...
Amande.
Là ah où ouais, on est. Voilà, bah, Amande, du coup.
Amande. Alors, quel effet ça fait de se retrouver dans le premier spectacle, une salle des fêtes, la salle des fêtes de la Canourgue, où vous étudiez. Deuxième spectacle dans une salle de lycée, donc une version vraiment très intime. Et puis là, bah, sous un chapiteau avec du monde. Est-ce que vous avez remarqué ces différences? Où est-ce que vous avez été le mieux, en fait?
À la Dévorée, parce qu'il y avait plus de décors, plus de précision dans les lumières et tout ça. Plus d'investissement, on va dire.
Plus d'investissement financier, humain?
Ouais, humain.
En fait, c'est un spectacle d'une grande fin, qu'on qualifie de grande forme. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'artistes sur scène, des décors, des costumes, de la musique, plein de choses. C'est moins intime que les deux premiers, effectivement.
Ouais.
Avant de poursuivre le débat, je vous propose d'écouter l'interview que vous avez réalisée avec les lycéens du lycée Chaptal à l'issue de la représentation de La Dévorée.
Alors je viens du lycée Chaptal, je suis en seconde. J'ai trouvé que c'était un spectacle très très touchant et très puissant, avec des émotions très fortes, mais aussi très beau visuellement, et la musique était exceptionnelle. Le jeu de lumière aussi était formidable. Et je pense que c'est le mélange de tout ça qui m'a énormément plu. Alors, je suis arrivée, je ne connaissais rien du spectacle. La prof nous a juste dit que c'était dans un chapiteau. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est trois femmes qui se font accoster par un homme. Et d'abord, elles jouent avec cet homme, à le séduire, mais en faisant comprendre que ce ne sera pas possible. Et puis, je pense que j'ai pas tout compris, mais chacune vit une histoire difficile avec cet homme, avec de la violence, et puis ça s'unit très mal pour chacun des personnages, parce que moi je pense qu'ils finissent tous par mourir à la fin. Voilà.
C'était une histoire du monde du cirque. La femme. Une femme de cirque, et c'est pour montrer qu'elles sont enviées. Et les paillettes, chaque fois qu'il y avait les paillettes, c'était les émotions fortes. Tout. Enfin, c'est ce que j'ai compris, moi.
Les artistes sont de réels professionnels. Ils sont magnifiques, et les émotions qu'ils nous transmettent sont aussi magnifiques.
Mais on parle de...
spectacle.
Ah. Mais je sais pas quoi dire.
Ce que j'ai compris en général, c'est que un peu on dirait que les hommes ils manipulaient un peu les femmes, et qu'au final les femmes elles se retournaient contre eux et que ils étaient piégés, quoi. Voilà.
Et toi alors, si on te demande quel est le spectacle que tu as préféré?
La Dévorée.
Ce serait La Dévorée. Tu pourrais nous dire pourquoi?
Comme il y avait des acrobaties, il y avait plusieurs rôles joués aussi. C'était un peu comme un film d'horreur. Il y avait plusieurs jeux de rôle. Il y avait un homme qui faisait le fou, un autre Achille, et trois femmes, les Amazones, qui jouent les Amazones.
Pourquoi tu parles de film d'horreur? C'est incroyable.
C'était un peu glauque.
Pourquoi glauque?
Ils avaient du sang sur eux.
Du sang? Ouais. Carrément. Du vrai?
Non, pas du vrai.
Donc toi, c'est celui-là qui t'a le plus...
Ouais, ça bouge plus, et puis la musique est bien. Il y a plusieurs musiques, plusieurs types de musique aussi.
Parce que du coup, c'est plus un spectacle complet avec de la musique. C'est quoi comme genre de spectacle, ce dernier spectacle?
Un spectacle de cirque, un peu.
Et il y avait des animaux?
Ouais, il y avait des chiens, trois chiens.
Oui, donc pas des animaux classiques comme on voit dans un cirque classique. Alors, c'est intéressant ta réponse. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'autour de la table, il y en a... Enfin, est-ce que... Pour vous aussi, c'est le spectacle à dévorer que vous avez préféré. Pour qui? Ludovic, super, on te passe le micro. Alors, dis-nous pourquoi.
Mais il a tout dit, c'est la même chose, l'ambiance, être dans le noir, la lumière, les costumes, tout l'ensemble, quoi.
Est-ce que vous avez été surpris par ce spectacle?
Un peu. Pareil que Mato et Ludo.
Pourquoi t'as été surpris?
Par le jeu des artistes.
Alors, moi, je me souviens, ne serait-ce que le début. La manière dont les artistes arrivent à nous faire rentrer dans le spectacle, elle est vraiment étonnante. Est-ce que quelqu'un pourrait nous la décrire? Souviens-toi du début. Vous étiez tous, en plus on est rentrés sur la fin et on est restés longtemps dans... On n'était ni dans la salle ni dehors, on était dans un sas.
Une fois rentrés dans le chapiteau, il y avait un couloir où un homme faisait jouer du tambour. Puis après, on est rentré et le spectacle a commencé.
Nathan, est-ce que pour toi, c'est le spectacle que tu préfères, La Dévorée ?
Oui.
Alors, est-ce qu'il y en a un qui préfère un autre spectacle parmi les trois ? Vous avez tous préféré La Dévorée ?
Oui.
Alors, ouais. C'est génial parce qu'on n'avait pas du tout parlé avant, en fait, et donc on devait finir l'émission sur La Dévorée, le dernier spectacle qu'ils ont vu. Et je trouve que c'est celui qu'ils préfèrent. Je ne pensais pas que vous me diriez tout ça, en fait.
Si.
Ouais, c'est incroyable. Donc, plus parce que c'est une grande forme, parce que du coup, il y a de la magie, c'est très féerique, c'est riche. Alors, quelles émotions ça vous a fait de voir ce spectacle ? Tu as dit glauque tout à l'heure. Vous trouviez glauque ce spectacle ?
C'est surtout la musique qui était glauque. Après, le sang et tout ça, c'est sûr que ça met. Ça fait un peu peur. La musique qui rajoute un peu de suspense et. Et tout, je dirais pas comme que c'est un film d'horreur, mais ouais.
On est dans quelque chose de très fort émotionnellement, ne serait-ce que le titre, La Dévorée. Qu'est-ce que ça veut dire, être dévoré ? Enfin, par quoi ils sont dévorés ?
Par l'amour.
Par l'amour, ouais. Qui ronge de l'intérieur.
Voilà. C'est l'homme, il est tombé amoureux de la
trapéziste.
La trapéziste, voilà. Et puis après, il se dévore d'amour.
Dernière question, est-ce que par rapport à... Parce que là, vous avez vu vraiment trois formes de spectacles qui sont magnifiques, qui sont vraiment extraordinaires. On peut vraiment remercier aussi Scène Croisée de Lozère qui programme des choses très très belles. Et vous avez vu trois formes de spectacles complètement différents, des spectacles très intimes, et puis ce dernier spectacle. Donc il y a une progression dans le projet. Alors par rapport au début de l'année, avant de faire ce projet, est-ce que vous avez l'impression que de faire ce projet, ça a changé pour vous la vision que vous aviez du théâtre ? Question compliquée. On peut réfléchir un peu, mais je me souviens de la première discussion qu'on a eue ensemble avant le spectacle d'Estelle Savasta, où je vous avais posé la question de ce que c'était le théâtre. Et à la sortie du spectacle d'Estelle, vous étiez surpris justement parce qu'elle propose quelque chose de complètement... On n'est pas dans un rapport frontal avec le public et les artistes sur le plateau. On est vraiment... autour de ce dispositif scénique. Pareil pour le spectacle d'Olivier Letellier où on est dans une salle de classe. Donc là, on est vraiment au milieu et on est intégré au spectacle. Et pareil aussi sous le chapiteau, même si c'est une plus grande forme, le public est autour de la scène. Donc ça pose ces questions de relation entre le public et l'artiste. On est vraiment, le public est vraiment intégré au spectacle. Est-ce que vous, ce projet, a changé ce que vous pensiez du théâtre ?
Au tout début, sans être allé voir les théâtres, moi je pensais que c'était par exemple les sièges tous alignés avec un grand rideau rouge, une grande scène. Et puis une fois être allé voir les trois théâtres, je sais que c'est pas du tout comme ça. Enfin si, c'est comme ça, mais
pas toujours.
Il y a d'autres façons de. Ouais, voilà.
Et ça vous a plu du coup ?
Un peu de merde.
Vous aviez l'impression que le théâtre, c'était pas pour vous au départ ?
Non, enfin...
Vous pensiez que c'était pour vous au départ, quand on a eu la première discussion ?
Au départ, non. C'est plus pour les personnes âgées, j'aurais dit. Mais une fois y être allé, non, c'était vraiment bien, intéressant et tout. Puis ouais, c'est pour tout le monde, en fait.
Et donc, ça vous a donné envie de retourner ?
Ouais.
Les autres ?
Ouais.
Merci à Eddy, Ludovic, Mathis, Nathan, Enzo et Matteo. Bravo à Sylvaine Couder d'organiser et de mettre en place ce projet pour le lycée piscicole Louis Pasteur de la Canourgue pour donner le goût de la radio et du spectacle à ses élèves. Un petit bonjour à Véronique Valadier qui a remplacé Sylvaine pendant le début de l'année. Merci à Canopée et à Scène Croisée de Lozère qui permettent que ces si beaux projets culturels se fassent. Merci enfin au studio Radio 48 FM qui nous accueille aujourd'hui et Ludovic. Nous avons entendu Yann Tiersen, Big Flo et Oli, Goran Bregovic. La musique du spectacle La Dévorée de la compagnie Rasposo clôturera l'émission. Et juste maintenant, les élèves, vous allez tous nous lire un texte magnifique sur le théâtre d'Estelle Savasta.
Enfant, j'ai passé un temps infini à mourir et à ressusciter, à aimer de toute ma puissance et à expérimenter aussitôt le désamour, à retomber en amour.
À faire la guerre, à être le loup, à être la proie, à devenir un monstre. Parce qu'un jour sans jouer était un jour perdu.
Parce que les questions qui nous traversaient alors étaient si vastes et si nombreuses qu'il nous fallait chaque jour et de toute urgence, dès la cloche se rassembler, pour trouver l'histoire qui nous permettait de jouer à et de tenter de comprendre un peu comment ça marche.
Nous ne savions pas que ces questions nous traverseraient toute la vie. Et sans doute, pressentions-nous déjà que nous n'avions pas besoin de réponses, mais que nous désirions intensément que chacune d'elles soit entendue, considérée, manipulée avec soin.
Que c'est précieux une question. Je crois que j'ai fait du théâtre mon métier parce que demeurait intacte l'urgence de rassembler des gens inspirants pour trouver l'histoire qui nous permettra de jouer à et de sonder l'immensité des questions qui nous traversent.
Je crois que je vais au théâtre parce que c'est un endroit où l'on m'offre ce luxe rare de ne pas me donner de réponse et celui de ne pas m'en demander. Parce que j'ai le sentiment d'y être assis avec d'autres au bord de trous noirs et que c'est souvent délicieux.
Et si j'ai tant de plaisir à voir et créer des spectacles tout public, c'est que j'aime particulièrement l'idée que nous soyons enfants et adultes assis ensemble. J'aime l'idée d'un recueillement partagé, le recueillement tel que définit Lévinas. Lorsque nous faisons taire nos préoccupations ordinaires pour accueillir le plus grand que soit.
Mm-hmm.